Aujourd'hui, avec la toile, le mot français pour Internet, je peux communiquer quasi instantanément à la vitesse de l'éclair, avec n'importe qui dans le monde entier. Mais dans l'Antiquité, il en est tout autrement. Sur mer, les nouvelles vont à la vitesse du vent, et sur terre au mieux, elles se déplacent en même temps que les sabots du cheval, du facteur de service. C'est le cas du coursier qui délivre le livre de l'Apocalypse à chacune des sept églises auxquelles Jésus-Christ s'adresse. Je continue de lire dans le second chapitre de l'Apocalypse. « Au messager de l'église de Pergame, écrit. » Après Éphèse, le porteur va dans le nord et se rend à Smyrne. Puis, il continue toujours en direction du nord et arrive à Pergame. Contrairement aux deux villes précédentes, Pergame est à l'intérieur des terres à 24 km de la mer Égée et aussi en dehors des grandes voies romaines qui desservent l'Empire. Pergame est la plus grande et la plus belle des villes d'Asie et la capitale de la province depuis près de 250 ans quand elle passe dans le giron de Rome. Aujourd'hui, Pergame s'appelle Bergama. La plus grande partie de la ville est construite au sommet d'une colline de 300 mètres de haut en forme de conique. Au XIXe siècle, ce site très impressionnant est fouillé par Sir William Ramsay, un célèbre archéologue qui écrit « Plus que tout autre site d'Asie mineure, elle donne aux voyageurs l'impression d'une ville royale. Le siège de l'autorité, la colline rocheuse sur laquelle elle se tient, est énorme et domine la vaste plaine de Caïcus, la vallée du fleuve, avec une grande fierté et une grande audace. Pergame possède une immense bibliothèque qui contient 200 000 manuscrits. Au 1er siècle, avant notre ère, le général romain Marc-Antoine en fait cadeau à la reine Cléopâtre, avec qui il y a une liaison pendant 10 ans et plusieurs enfants. Mais apparemment, la notoriété et les richesses ne font pas le bonheur, parce que tous deux se suicident. Avant que la ville de Pergame ne devienne romaine, c'est la capitale d'un royaume indépendant. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, son roi tente en douce de persuader le bibliothécaire d'Alexandrie de venir dans sa ville afin qu'il y constitue une bibliothèque qui rivalisera avec celle d'Alexandrie. Mais le roi d'Égypte, qui a vendu complot, retient son bibliothécaire captif et en représailles, il ordonne l'arrêt des exportations de papyrus à Pergame. C'est alors que, nécessité faisant loi, les habitants de Pergame créent le parchemin Vélin, fait de peaux d'animaux traitées et le répandent dans le monde antique. Grâce à sa bibliothèque, Pergame devient le centre intellectuel de la province d'Asie et prend en charge la défense par les armes de la culture grecque contre les envahisseurs barbares, ce qu'elle fait avec succès. Une fresque à la base de l'autel de Zeus commémore la victoire militaire de Pergame sur nos ancêtres les Gaulois. Bien entendu, comme toutes les autres villes importantes, Pergame est un centre religieux. Les quatre principales divinités sont Asclépios, Esculape, le dieu serpent, Zeus, dont l'autel a la forme d'un trône, Dionysos ou Bacchus, dieu du vin et de la fertilité, et Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre. Mais à côté des idoles, c'est le culte de l'empereur qui domine. D'ailleurs, c'est à Pergame qu'on construit le premier temple en son honneur en l'an 29 avant Jésus-Christ, empereur Auguste. Plus tard, la ville construit 2 autres temples dédiés à l'empereur Tarjan et Septime Sévère. Pergame devient aussi le plus grand centre de culte à l'empereur et on l'adore avec ferveur. La conséquence de cette idolâtrie grossière est que la chasse aux croyants est ouverte toute l'année. Alors que dans les autres villes, les chrétiens sont surtout persécutés le jour officiel où chacun est tenu d'offrir un sacrifice à l'empereur. Polycarpe est exécuté parce qu'il refuse de participer à un tel acte d'idolâtrie, et il est probable qu'Antipas, dont il est question plus loin, est mis à mort pour la même raison. Je continue le texte. À l'ange de l'église de Pergame, écrit « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. » Celui qui tient l'épée aiguisée à deux tranchants, c'est bien sûr le Seigneur ressuscité et glorifié. Dans cette lettre, comme dans les deux précédentes, Jésus s'identifie en prenant une phrase de la description de la vision de Jean. Et la façon dont il se présente en dit long sur ce qu'il a l'intention de dire à l'église de Pergame. Cette épée est celle du juge qui vient pour trancher et qui va intervenir à cause du péché qui prolifère parmi les croyants de cette ville. Mais, en second lieu, cette épée représente la parole de Dieu vivante et efficace. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute que cette épée, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant est pénétrante jusqu'à plus profonde de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. À l'heure qu'une épée faite de métal finit toujours par s'émousser, la parole de Dieu, elle, jamais. Elle retient toujours sa capacité de juger les mobiles les plus cachés du cœur. C'est d'ailleurs par sa parole que Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, jugera le monde et chaque individu. Vous d'abord, et moi ensuite, ou bien le contraire. Vers la fin du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean assiste à la seconde venue de Jésus-Christ et dit « Je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. » Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Il est vêtu de manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Les chrétiens de Pergame sont gravement fautifs parce qu'ils tolèrent la présence d'hérétiques au milieu d'eux, alors qu'ils auraient dû tuer le serpent dans l'œuf, comme on dit, et sans le moindre ménagement. Lorsqu'ils ne l'ont pas fait, peut-être déjà au nom de la sacro-sainte tolérance, Jésus se présente à eux armé d'une épée à deux tranchants, et donc très menaçant. Ces croyants vont maintenant devoir rendre des comptes à leur maître pour leur attitude désinvolte et mondaine face au péché. Tout au long de son histoire, le troupeau qui se réclame de Jésus-Christ a toujours compté dans ses rangs un grand nombre de moutons noirs. Des faux frères, qui sont prêts à faire des compromis avec les valeurs tordues de leur société, même quand elles s'opposent à l'enseignement des Écritures. Cet esprit de compromission connaît une poussée fulgurante en l'an 313 de notre ère, quand l'empereur Constantin émet l'édit de Milan, par lequel il accorde totale liberté au culte aux chrétiens, mettant ainsi fin à 2,5 siècles de persécution. Lui-même adopte le christianisme et en fait la religion d'État. Mais c'est un mauvais coup du diable, car une catastrophe pour l'Église de Jésus-Christ. Presque du jour au lendemain, les prêtres païens changent leur fusil d'épaule et prennent le nom de chrétiens. Les temples deviennent des églises et les fêtes païennes des festivals chrétiens. L'Église, dorénavant, en union symbolique avec le système politique et l'Empire romain, mute soudainement et prend le nom de Saint-Empire, soi-disant chrétien. Suite à ce tour de force, Satan sourit de toutes ses dents parce qu'il a réussi à entraver la marche conquérante de l'Église de Jésus-Christ, ce que les persécutions n'avaient pas réussi à faire. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, et plus particulièrement en Amérique du Nord. L'Église de Jésus-Christ suit le monde ou à pas de course. Elle obéit à la loi des marchés financiers et adopte les stratégies de marketing du moment. Bon nombre de croyants évangéliques épousent corps et âme les valeurs de leur culture, l'argent, les divertissements à la mode et la croyance qui mérite une retraite dorée. Mondains jusqu'au bout des ongles, ils sont incapables de discerner le vrai du faux. Jouets du diable, ils avalent tous les bobards que leur distillent les médias. Ils sont ligotés par un système de fausses valeurs, mais ne s'en rendent pas compte. Et peu de pasteurs et responsables d'assemblées ont le courage ou la volonté de leur dire qu'ils ont besoin de se repentir parce qu'ils sont eux-mêmes pris dans cet engrenage infernal. Dans le livre « 20 000 lieues sous les mers » de Jules Verne, une pieuvre géante retient prisonnier le Nautilus dans ses tentacules. Pareillement, les puissances des ténèbres tiennent captifs beaucoup de croyants. Les Écritures n'hésitent pas à condamner toute forme de mondanité et tous ceux qui courent après les plaisirs terrestres et temporels au déprimant des valeurs célestes éternelles. Pourtant, Matthieu rapporte que Jésus a bel et bien dit « Faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses que vous désirez vous seront données en plus. » Et les apôtres Jacques et Jean écrivent respectivement « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs, qui anime l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voilà des paroles que vous et moi avons grand besoin de méditer. Tout comme l'église d'Éphèse, l'église de Pergame a d'abord perdu son premier amour pour le Seigneur. Seulement, elle fait un pas de plus vers le bas en fricotant avec les valeurs de la société. Voulant accommoder la chèvre et le chou, les croyants de Pergame cherchent des compromis entre la foi et le monde. Et d'ici peu, ils porteront le même dossard et les mêmes couleurs que les païens idolâtres de leur ville. L'origine de l'église de Pergame ne nous est pas donnée. Pendant ce second voyage missionnaire, l'apôtre Paul passe à côté de la Mysie, la région où se trouve Pergame, mais il ne s'y arrête pas. Cependant, et comme pour l'église de Smyrne, l'église de Pergame est probablement le résultat d'un essaimage des croyants d'Éphèse. Je continue de lire dans le second chapitre de l'Apocalypse. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Comme dans la lettre adressée à l'église de Smyrne, Jésus commence par faire des éloges aux croyants de Pergame. Il le rappelle. Qui le sait que leurs circonstances sont difficiles à vivre? Pareillement, Dieu connaît aussi nos circonstances, et il en tient compte. C'est se comporter en pharisien que de condamner quelqu'un qui se rend coupable d'un écart de conduite, sans prendre en considération toutes les composantes de sa situation. Suis-je vraiment certain qu'à sa place, je n'aurais pas commis la même faute? Comme Pergame est célèbre pour ses idoles et le culte de l'empereur, il est dangereux d'y étaler ses convictions de chrétien, ce que témoigne le sort que les païens ont fait subir au disciple Antipas, un nom qui signifie « contre tous ». Selon une tradition, cet homme, qui est l'un des responsables de l'église de Pergame, est martyrisé pendant la vague de persécution sous le règne de Domitien. Comme il refuse d'offrir le sacrifice requis à l'empereur, on le brûle à l'intérieur d'une idole de cuivre en forme de taureau chauffé à blanc. De toute évidence, Antipas est un dur et un pur qui a préféré mourir que de renier son sauveur, ce qu'il lui faut d'être appelé par Jésus « mon témoin fidèle », un titre qu'il portera pour l'éternité et que Jésus lui-même porte. C'est la translittération du mot grec pour « fidèle », Martus, qui a donné « martyr » en français, parce qu'au travers des siècles, beaucoup de témoins du Christ ont payé leur fidélité de leur vie. En dépit de leurs circonstances difficiles, les croyants de Pergame s'accrochent et n'ont pas l'intention d'abandonner la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur les félicite donc pour cette preuve de fidélité. Comme dans la lettre à l'église d'Éphèse, Satan est désigné comme le vrai chef de la ville et le responsable des persécutions. Curieusement, il est mentionné deux fois de suite. Et Jésus dit qu'il a son trône à Pergame et qu'il y habite. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Tout d'abord, Pergame est la ville où on se donne tout entier à l'adoration de l'empereur. Ensuite, on a le temple de Zeus qui est gigantesque et en forme de trône. Troisièmement, à Pergame se trouve le temple d'Asclépios, dieu de la médecine qui est représenté sous la forme d'un serpent. Pour les chrétiens, un tel symbolisme ne manque pas de rappeler Satan. Sachez aussi que l'autocollant que les médecins placent sur leur pare-brise de leur bagnole représente Asclépios, dieu de la médecine. Tout comme aujourd'hui certains font un pèlerinage à Lourdes, à l'époque de Jean, des malades de tout le monde antique affluent dans le temple d'Asclépios, espérant y trouver la guérison. Des serpents non venimeux y errent librement un peu de partout. Les malades s'allongent par terre et attendent qu'un serpent les touche et les guérisse. Comme le culte de l'empereur, le culte du faux dieu Asclépios devient obligatoire. À la fin du second siècle, éclate une nouvelle persécution, encore une, contre les chrétiens qui refusent d'offrir le sacrifice annuel à l'empereur. Mais cette fois-ci, les païens exécutent aussi les tailleurs de pierre qui refuse de sculpter une image à l'idole d'Asclépios. Je continue la lettre de Jésus-Christ à l'église de Pergame. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. La première accusation de Jésus est très grave. Le Seigneur reproche aux croyants de Pergame de tolérer parmi eux des membres qui sont partisans de la doctrine de Balaam. Ce sinistre personnage n'est pas un charlatan, mais un devin doté d'un réel pouvoir. Après avoir commencé sa carrière comme authentique prophète de l'Éternel, il tourne mal et retourne sa veste par amour de l'argent. Dans le livre des Nombres, on lit que Balak, roi des Moabites, le fait venir et lui offre une fortune s'il arrive à prononcer une malédiction sur les Israélites qui menacent son royaume. N'ayant pas réussi, Balaam a recours à un autre stratège, la débauche avec les belles femmes plantureuses et idolâtres. Le plan machiavélique de Balaam marche comme sur des roulettes, et partout dans le camp ont lieu des partouzes mémorables. Mais l'Éternel se fâche et dit à Moïse, « Prends avec toi tous les chefs du peuple et fais-les pendre, les coupables, en ma présence face au soleil, afin que l'ardeur de ma colère se détourne d'Israël. » Moïse ordonna au juge d'Israël que chacun de vous exécute ceux de ces gens qui se sont adonnés au culte de Baal de Péor. C'est ainsi que 24 000 Israélites sont exécutés. Les historiens juifs du 1er siècle, Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph, traitent tous deux Balaam de séducteur du peuple. Et dans sa courte lettre, Jude met Balaam au même rang que Caïn et Corée, des rebelles notoires. Quant à l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, il mentionne ceux qui ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis. Et il écrit aussi que Dieu les punira tout particulièrement parce qu'ils s'adonnent à leur instinct corrompu et méprisent l'autorité du Seigneur. Imbus d'eux-mêmes et arrogants, ces enseignants de mensonges n'hésitent pas à insulter les êtres glorieux. Tel est le sort réservé aux hérétiques, attachés à la doctrine de Balaam. Ils se disent chrétiens, mais se rendent grandement coupables aux yeux du Seigneur en choisissant d'ignorer la décision que les apôtres ont prise au concile de Jérusalem. Et qui est « Ne consommez pas de viande provenant des sacrifices aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et gardez-vous de toute inconduite sexuelle. » En fait, les hérétiques font exactement l'inverse. Ils participent aux fêtes païennes et aux cultes des faux dieux qui sont toujours accompagnés d'une part, de toutes sortes de débauches et d'autre part, de repas où on consomme de la viande sacrifiée aux idoles.